Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver comme chaque semaine depuis le mois de septembre pour nous donner des nouvelles du diocèse. Alors, on ne va pas seulement prendre des nouvelles du diocèse cette semaine, on va commencer par parler de cette neuvaine que les évêques de France ont proposée, et donc vous avec, cette neuvaine pour confier au Seigneur ce projet de loi sur la fin de vie, cette loi sur la fin de vie qui est en troisième lecture à l'Assemblée depuis lundi. On l'a déjà dit dans cette émission, on prie pour cette loi pour peut-être demander au Seigneur d'éclairer nos responsables politiques, mais au fond, cette loi, elle fait son petit bonhomme de chemin quand même, malgré nous, malgré nos prières.
Plus exactement, on ne prie pas vraiment pour la loi, mais pour ceux qui les votent, et pour qu'ils soient bien inspirés. Alors, l'inspiration, c'est une chose, mais pour qu'ils suivent leur inspiration et celle que leur dicte leur conscience, avec courage, avec lucidité, voilà. Donc, on prie pour que le Seigneur éclaire la conscience de chacun, et puis que chacun ait le courage de suivre sa conscience ainsi éclairée. C'est vraiment, moyen d'action qui a fait ses preuves, la prière, et la prière dans le cadre d'une neuvaine, et qui s'ajoute à toutes les autres démarches que nous avons faites et que nous continuons de faire, qui est aussi de convaincre par la raison, par la discussion, par l'échange, par le débat, du fondé de nos arguments au nom de la vision de l'homme et de la vie que nous portons dans la foi chrétienne, mais que nous ne sommes pas les seuls à partager. Et puis voilà, entrer dans le raisonnement, l'échange, la discussion, le débat, et essayer d'aider à identifier que, bien sûr, il y a toujours de bonnes raisons de promouvoir ce que la loi veut encadrer, veut permettre. Mais que ça vienne toucher des ressorts extrêmement profonds et des enjeux beaucoup plus larges de l'anthropologie humaine. Et voilà, et donc déjà par la raison, mais aussi par la prière, pour que le Seigneur vienne éclairer les consciences et donner la force de suivre la conscience.
Alors, si c'est en troisième lecture, c'est que ce texte, il n'a pas été une évidence tout de suite pour tout le monde. Le fait que ce soit en troisième lecture, c'est plutôt un signe qu'il y a une réflexion, que les choses bougent, que peut-être les positions des uns et des autres ont, si ce n'est complètement changé, un petit peu évolué quand même.
C'est notamment du côté du Sénat que se sont manifestés plusieurs fois, chaque fois, le non-vote du projet de loi en l'état. Alors, pour des arguments contradictoires, certains estimant qu'elle ne va pas assez loin et d'autres estimant ce que je viens de dire. En tout cas, ça a eu pour effet de ne pas valider la loi qui avait été approuvée à l'Assemblée nationale, et donc d'enclencher ces va-et-vient. Donc, en effet, la loi ne s'impose pas comme une évidence. Elle suscite de la réflexion et des divisions, on va dire, à l'intérieur de chaque camp. C'est pas un camp, la droite pense ceci, la gauche pense cela, mais à l'intérieur de chaque camp s'expriment des points de vue et des réflexions, et là aussi des expressions en conscience qui font que on voit bien que ce débat, il est transpartisan, et cette question est transpartisane, et c'est vraiment chacun en son âme et conscience qui est invité. C'est pas évident, c'est clair. Mais il y a aussi une volonté de l'imposer à toute force et de l'imposer rapidement avant que la machine parlementaire n'entre dans des ralentissements liés à la campagne des prochaines élections présidentielles. Et donc il y a aussi une volonté politique de faire que cette loi passe à tout prix comme un symbole. Mais justement, c'est un symbole en effet, mais qui ne va pas dans le bon sens. Et donc il faut que nous en ayons une grande conscience nous-mêmes. Et la prière nous aide nous-mêmes à en prendre conscience. Parce que moi, mon propos, c'est d'essayer de convaincre ceux qui votent la loi de ne pas la voter, mais aussi de convaincre les catholiques de ne pas y avoir recours si, après coup, si une fois qu'elle sera votée, adoptée, si telle est sa destinée, eh bien, on n'est pas obligé d'y avoir recours, et donc d'éclairer la conscience des chrétiens. C'est aussi mon propos de pasteur de l'Église catholique, et c'est aussi pour cela que je prie pour ma part.
c'est plus difficile pour les médecins chrétiens de se positionner, puisque pour le coup, eux, ils seront exposés aux enjeux de cette loi au quotidien dans leur travail. Je crois que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, certains d'entre eux, au cours de ces derniers mois. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces médecins qui ont la foi, mais qui sont du coup confrontés à une vraie problématique vraiment sur leur terrain professionnel?
C'est extrêmement compliqué comme sujet, en effet, et vraiment, là aussi, d'inviter chacun à suivre sa conscience, et qu'elle soit professionnelle, formulée dans le serment qu'ils expriment au début, au seuil de leur vie professionnelle, que ce soit en conscience de foi chrétienne, en conscience humaine, le plus possible de suivre leur conscience. Mais je sais que ça m'est facile à dire, parce que ça peut les exposer à des risques au plan professionnel, au plan juridique peut-être. Je ne sais pas exactement quelles sont les dispositions précises à ce sujet. Mais voilà, de les encourager et de dire qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question de toute façon. Et que donc, c'est l'objet d'un discernement complexe et que... Quelquefois, il faut choisir entre le moindre mal et le plus grand mal, et pas seulement entre quelque chose qui serait facilement bien et quelque chose qui serait facilement identifiable comme mal.
Merci pour vos réponses sur ce sujet de la fin de vie. Donc c'est une affaire à suivre, et en tous les cas, c'est une affaire pour laquelle on peut continuer à prier et à s'informer, c'est important. On va parler des ordinations, puisque c'est la période des ordinations presbytérales, un petit peu partout en France, et puis dans l'Église universelle. Alors nous, on n'a pas d'ordination presbytérale cette année, Monseigneur, mais une ordination diaconale en vue du sacerdoce est prévue début septembre, le dimanche 6 septembre, celle de Corentin Laguins. Comment on prépare? Comment vous accompagnez, vous? Je sais que c'est une vraie préoccupation dans votre cœur de pasteur. Comment vous les accompagnez, nos séminaristes?
Bien, déjà en les rencontrant, ensuite en faisant confiance à ceux qui ont la mission donnée par les évêques de discerner leur vocation et puis de les former au ministère. Et donc en travaillant avec leurs formateurs, en travaillant avec ceux qui les accompagnent aussi dans les paroisses, qui les accueillent pour le week-end où ils font leur expérience pratique, pastorale, en étant en lien avec eux aussi. Début juillet, je vais partir avec le délégué diocésain à la formation ministère, le père Jean-Florent Nutens, 3 jours au sanctuaire des As avec le groupe des 6 séminaristes de notre diocèse, pour vivre un temps de fraternité, de partage, d'échange, de prière avec eux. Donc déjà en étant proche, mais à ma place, c'est-à-dire en laissant faire ceux qui ont pour la mission de discerner leur vocation et de les former. Voilà, et puis en leur faisant sentir que je crois au ministère des prêtres et que je ne conçois pas l'avenir de l'Église sans le ministère des prêtres, que je veux qu'il y ait des prêtres au service des communautés chrétiennes et que promouvoir le fait que les fidèles chrétiens vivent le sacerdoce commun qu'ils ont reçu au baptême, s'engagent dans la mission de l'Église, prennent leur part du fardeau commun de l'annonce de l'Évangile, ce n'est pas dévaloriser la responsabilité des prêtres au service des communautés, mais c'est les deux ensemble ou les deux qui disparaissent ensemble. C'est pas ou l'un ou l'autre. Et donc, en insistant sur ce message chaque fois que j'en ai l'occasion, et ils le savent bien, je l'avais mentionné déjà à la lecture de la lettre pastorale où ils m'ont remercié parce qu'ils sentent que je ne cherche pas à organiser l'Église sans les prêtres, mais qu'ils peuvent se projeter dans une manière d'être prêtre au service de l'Église et d'une Église missionnaire, et que ça leur fait envie, et que ça me fait plaisir.
Vous voulez dire par là que quand vous mettez en place une EAP 517, paragraphe 2, du canon dans une paroisse comme à Bagnères à partir du mois de septembre, ce n'est pas pour nous dire ou pour signifier aux fidèles que la paroisse peut continuer sans prêtre. Ce n'est pas ça l'objectif.
Très précisément, c'est ce que dit le canon 517.2, c'est dans le cadre temporaire d'une pénurie de prêtres où il n'y a pas la possibilité tout de suite de nommer un curé, où un dispositif est prévu pour faire fonction de manière provisoire, mais c'est bien en attente d'un curé que de toute façon un prêtre est associé à l'EAP en question pour qu'elle puisse exercer sa charge, sinon c'est pas possible, et que de surcroît, pour ce qui est de Bagnères en plus, je renforce la présence des prêtres sur place. Ils ne peuvent pas être curés parce qu'ils sont prêtres étudiants, parce qu'ils sont âgés. Mais paradoxalement, il y aura plus de prêtres en résidence sur la paroisse à la rentrée prochaine, alors même que la charge pastorale sera confiée à une EAP 517-2. Donc j'espère que tout cela convainc tout le monde que non, l'Église sans prêtre, ce n'est absolument pas possible. Et on est dans la période des ordinations. Je me réjouis de la prochaine ordination de Corentin au mois de septembre, le 6 septembre. Bien sûr, tout le diocèse est invité à se réjouir de cela. Et d'ailleurs, l'ordination sera précédée par toute une journée de pastorale des jeunes, de rencontres diocésaines des jeunes, de réflexion autour de la vocation, etc., d'échanges, une journée festive pour la pastorale des jeunes, qui se terminera à la cathédrale pour l'ordination, puis ensuite pour partager ce qu'il y aura à partager après l'ordination. Et puis, je peux dire aussi que j'envisage une autre ordination diaconale en vue du sacerdoce dans quelques mois plus tard, avec, je l'espère, deux ordinations presbytérales dans un an.
À propos de nos séminaristes, ils sont encore en discernement, puisqu'ils sont encore en formation. Comment, forcément, ça suscite un enthousiasme normal, puisque ces formations de séminaristes étaient très attendues depuis longtemps dans le diocèse. Hein, on a longtemps prié pour qu'il y ait des vocations, elles sont là. Comment cet enthousiasme des fidèles peut se vivre et se déployer sans contraindre la liberté qu'ils ont, justement, ces séminaristes qui sont encore en discernement?
Je me souviens, en l'an 2000, il y avait eu, fourni par le Service national des vocations, tout un dossier intitulé « Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre » et qui proposait un changement de culture sur la manière d'aborder la vocation au ministère de prêtre. Justement, au nom de cette liberté individuelle extrêmement importante et qu'il faut respecter en effet et ne pas décider que l'aîné des enfants de la famille sera officier dans l'armée, que le second sera ecclésiastique, etc., parce que la vocation, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, soucieux de cela, soucieux aussi de difficultés dans les années 70-80, de départ de prêtres qui ont quitté le ministère et qui ont avoué que peut-être ils l'étaient devenus sans l'avoir fait tout à fait exprès, si je peux parler comme ça. On avait mis en place une forme d'approche de la vocation à ce ministère qui consistait surtout à attendre que des candidats se proposent pour ensuite examiner leur démarche. Et le dossier que nous avions reçu à l'époque, en l'an 2000, invitait au contraire à se faire force de proposition, comme c'est dans la tradition de l'Église, qui interpelle des gens pour leur proposer de devenir prêtre, pour leur proposer de devenir évêque, pour leur proposer de devenir diacre. Alors c'est comme ça que ça marche pour le diaconat et pour l'épiscopat, mais pour les prêtres, non, on n'ose pas, on n'interpelle pas, on attendait que ça vienne. Et donc, en effet, il faut sans doute changer de culture, et il faut encore que nous le fassions, et ne pas hésiter quand on repère quelqu'un, un jeune, dans nos paroisses, dans nos communautés, et à interpeller, l'EAP, ou tel groupe de catéchèse, ou telle équipe de prêtres avec d'autres, enfin, dire à quelqu'un, mais voilà, on a réfléchi et il nous semble que quelqu'un comme toi ferait beaucoup de bien à l'Église si, comme prêtre. On t'invite à y réfléchir. Et puis après, une fois que cette interpellation est faite, surtout, on arrête. On n'intervient plus, on laisse faire dans la conscience du jeune ce qu'il doit s'y faire, si tel doit être son destin, quelque part. Voilà. Mais
c'est une invitation, mais pas de pression.
Exactement, une invitation. Le fait d'inscrire cette possibilité comme quelque chose de bien dans la culture de la famille, dans la culture de la communauté, dans la culture de l'Église, mais sans pression, et puis voilà. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver, mais qui est possible, et qui est très fécond, et très bienfaisant. Et vraiment, je suis très sensible à cela, et sans doute qu'un jour, j'inviterai le diocèse à réfléchir à cette question d'une culture vocationnelle large, mais aussi ciblée sur le ministère de prêtres en particulier.
Alors, il y en a qui ont dit, oui, il y a déjà plusieurs années, qui vont célébrer leur jubilé. C'est ce lundi 29 juin. Vous célébrerez avec les diacres et les prêtres jubilaires la messe à 11h15 en la basilique du Rosaire au sanctuaire de Lourdes. Là encore, c'est un rendez-vous auquel les fidèles du diocèse sont invités à se joindre. C'est un moment important.
Absolument. Donc, c'est la messe du sanctuaire, hein, 11h15 à la basilique de Notre-Dame du Rosaire, en effet. Et donc à venir entourer les prêtres et diacres jubilaires. C'est chaque année autour du 29 juin, parce que depuis très longtemps, la fête des apôtres Pierre et Paul est souvent choisie comme une date opportune pour célébrer les ordinations. Donc c'est là qu'on fête les jubilaires. Alors, après la messe, je reçois les jubilaires, je les invite à ma table au chalet épiscopal. Je n'invite que les jubilaires à ma table au chalet épiscopal. Mais tous les prêtres fidèles, diacres du diocèse sont invités à venir entourer nos jubilaires pour la messe.
Voilà, bah vous nous raconterez tout ça lors de l'interview de la semaine prochaine. Ce sera la dernière avant la trêve estivale. Donc à la semaine prochaine, Monseigneur.
Très bonne semaine à tous.